L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Jean est un drôle de personnage. Avec sa longue barbe blanche, on le reconnaît de loin. Et si on ne l'oublie pas de sitôt, c'est surtout parce qu'il a une façon de voir les choses bien à lui. Il me reçoit pieds nus, chez lui, et une fois passé sa porte, je me trouve transportée dans un autre univers. Son univers à lui est fait de transformations de matière naturelle, de réutilisation fonctionnelle, de troc, d'échange. Il mange presque tout cru, mais que des végétaux. Et il en a fait son cheval de bataille pour un monde plus humain, moins cruel. Alors Jean, bonjour.
Eh hey, bonjour, bonjour.
Donc on est ici chez toi, à Pau, dans ta cuisine, qui est sacrément impressionnante, qui est construite avec du bambou.
Voilà, j'ai construit cette cuisine avec du bambou, parce que considérant qu'il faut penser plus pour dépenser moins, j'ai pris des matériaux de proximité.
Offert donc par Mère Nature.
Donc il nous a offert ça et je trouve qu'il faut, en fin de compte, le vol, c'est de ne pas utiliser ce qui nous est donné. Dans le cadre de penser plus pour dépenser moins, j'ai des toilettes sèches. J'ai des toilettes sèches qui me permettent tout autour de cet immeuble où je suis de faire pousser des tomates, de faire pousser des carottes, d'avoir du chisseau, d'avoir une palanquée de plantes qui poussent, notamment de la consoude, qui est une plante médicinale extrêmement intéressante et qui est une plante alimentaire. Donc, je m'amuse avec ça.
Penser plus pour dépenser moins, c'est-à-dire que donc tu essayes de vivre avec le moins d'argent possible ?
Vivre avec le moins d'argent possible et voir comment je peux être généreux. Parce qu'en fin de compte, la genèse qu'on trouve dans notre histoire et la générosité, c'est la même racine. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous éviter d'être dans le capitalisme ou dans la constipation. Parce que le capitalisme et la constipation, en fin de compte, sont les mêmes racines. C'est capitaliser nos emmerdements. Voilà. Donc, comment pouvons-nous sortir de ces choses-là et laisser circuler les choses et les faire jouer ?
Alors, comment tu fais, toi ?
Par exemple, là, je fais des composts. Je fais beaucoup de types de compost et j'essaie de faire avancer, par exemple, les choses. Parce que, par exemple, là, tout à l'heure, je vais faire une démonstration d'un appareil que j'aime bien qui me permet de vivre cru.
Toi et ta femme, vous mangez quasiment tout cru, c'est ça ?
On est végétalien, on ne mange pas tout cru, mais pour dire à 90%. Voilà. Pour 90% de notre alimentation, nous mangeons cru.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte de manger cru ?
Parce que, en fin de compte, quand tu manges cuit, c'est un processus qui s'appelle notamment la leucocytose, parce que, en fin de compte, les choses que tu manges, tu dois après les refermenter dans ton ventre. Et c'est, en fin de compte, un processus très coûteux en énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, après avoir mangé, ils ont envie de dormir. Plus on mange cru, moins on dort. Moins on a besoin de sommeil, moins on est fatigué.
Et il y a aussi des questions de vitamines, sels minéraux.
Et les questions de vitamines, sels minéraux, parce qu'il est certain que quand on cuit les choses, on perd beaucoup de vitamines, on perd beaucoup de sels minéraux, et on perd énormément de choses. Et je pense que le premier jardin que j'ai s'appelle mes intestins. Je jardine mes intestins, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que je trouve que un cadeau qu'on doit faire à notre environnement, c'est de gérer ces choses-là. Parce qu'il est évident que mes productions intestinales et vésicales retournent à mon environnement. Et si elles sont gérées d'une façon inconsciente, comme on les gère aujourd'hui, je peux prendre un verre d'eau. Et grâce à ce verre d'eau, j'ai des produits nombreux et variés que mes congénères avalent, qui sont notamment des produits pharmaceutiques, qui sont des tranquillisants, qui sont des anticonceptionnels, et j'en passe, et des meilleurs.
Donc en fait, tu te considères vraiment comme faisant partie du grand système de la vie quand tu parles comme ça, quand tu parles donc de ton jardin intestinal, ça veut dire effectivement toute cette vie qui est à l'intérieur de ton intestin. Et toi, après, comment tu remets à la terre ce qui est passé dans ton ventre ?
J'ai plusieurs composts avec des lombrics qui chantent « Allez les vers, ici repose », ils sont vraiment charmants, ils n'aboient pas, ils n'ont jamais mordre le voisin. Et je creuse sur deux hauteurs de bêche, je mets du du bois dans le fond, je mets des éplucheurs de légumes, des toilettes sèches, je mets différents ingrédients. Je fais un mélange qui me permet, en fin de compte, qui permet une décomposition lente. Parce que c'est important, ces décompositions lentes. Parce que si je prends un tas d'herbes et que je le mets en tas, j'aurai une décomposition très très rapide qui va brûler. Et c'est pas le but. Le but, c'est que ça se décompose tout doucement et que ça chauffe. Et qu'en fin de compte, l'eau remonte avec des fonctionnements ascendants, parce que la chaleur monte, le froid descend. Donc je fabrique des nuages dans la terre. Voilà, avec des nuages, tout simplement.
Et de l'humus, tu nourris la terre, en fait.
Voilà, et donc de l'humus et de l'humour, parce que humain, humour et humus et amour, pour moi, sont très liés. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Et c'est pour ça que, en fin de compte, quand je mange, eh bien, je mange parce que j'aime bien mastiquer, j'aime bien manger, mais je mange aussi parce qu'en conscience du fait de faire caca. Et je pense que beaucoup de nos enfants, si on voulait arrêter qu'ils fassent dans leur culotte, si on voulait arrêter qu'ils fassent pipi n'importe où et n'importe quand, eh bien, si on leur permettait de prendre conscience qu'en fin de compte, quand ils font caca et quand ils font pipi, eh bien, c'est un cadeau qu'ils vont faire à la terre et que petit à petit, ben, ils vont voir des plantes qui vont pousser, qui vont être heureuses de ce qu'ils ont donné. Et ça permettrait peut-être de penser aussi qu'il ne faut pas donner n'importe quoi à nos lombrics, à cette terre qui, en fin de compte, qui nous nourrit.
Alors pourquoi humour et humus sont liés pour toi ?
Ben parce qu'en fin de compte, c'est lié à l'eau. Hein. L'eau, en fin de compte, c'est de l'humus. Mais l'humour aussi, c'est faire circuler les choses, comme le sang. C'est les faire circuler. Je pense qu'il est très très important de prendre, en fin de compte, la comptabilité des choses et de voir que les choses ont besoin de circuler. Nous sommes malades aujourd'hui de nous approprier les choses et de nous empêcher de les faire circuler. Et on peut voir que, en fin de compte, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les mouvements réflexes. On peut voir que la Terre est malade, mais elle est malade d'un manque de circulation, avec une fermeture des frontières, avec des propriétés privées de plus en plus bornées, et avec des gens de plus en plus bornés dessus. On a pensé pendant des années que c'était les chevaux qui avaient inventé les œillères. Et malheureusement, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que dans la mesure où on fait ce qu'on fait aux animaux, on ne peut pas espérer qu'il arrive mieux à l'homme. En fin de compte, quand je vois les camps de concentration et quand je vois les élevages qu'on fait pour les animaux, c'est ce que j'appellerais bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. C'est évident.
Toi, tu es vraiment un amoureux des plantes sauvages, notamment. Hein. Tu te nourris beaucoup de plantes sauvages.
J'en mange beaucoup, oui, parce que j'estime qu'elles ont été sauvées de l'industrie. Hein, et j'essaie d'en manger beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'on peut très bien subvenir à ses besoins uniquement avec des plantes sauvages. Et j'en ai fait la preuve pendant des années, parce que j'ai eu le bonheur de marcher sur des milliers de kilomètres avec rien.
Alors, tu as vécu où sur ce chemin des herbes sauvages ?
Eh bien, je suis parti depuis Paris le 20 mars 1984 et j'ai traversé la France et j'ai traversé l'Espagne et je me suis retrouvé au Maroc. Et après, on a traversé sur l'Italie, on a fait un périple extrêmement important et une grande partie de notre alimentation était des plantes sauvages.
C'était toi et ta femme ?
Il y avait ma femme, mais il y avait d'autres personnes, on était un groupe volumineux, parce qu'il est certain que la difficulté que nous avons s'appelle l'image. L'image est très importante. Et il est certain que pour vivre d'une façon un peu autre que la majorité des gens, il faut être un groupe. Parce que autrement, c'est très difficile à supporter. Je vis de cette façon parce que mes mémoires sont établies. Mon identité est établie. Mais aujourd'hui, un jeune, malheureusement, a beaucoup, beaucoup de mal à s'extirper en fin de compte, de l'espace dans lequel il est. Il a beaucoup de mal à sortir de cette attraction. Beaucoup, beaucoup de mal.
Donc tu manges principalement des plantes crues, des plantes sauvages, et tu fais beaucoup de jus de ces plantes crues.
Ce qui m'intéresse dans le fait de manger des plantes sauvages, c'est de réduire l'impact qu'on a au niveau de l'environnement. C'est bien évident que je mange des bananes, je mange pas mal de fruits qui viennent des fois d'assez loin. Mais je dois dire que j'essaie aussi de réfléchir comment ça a été produit. Parce que je dois dire que j'ai vu au Nicaragua, il y a quelques années, des milliers de gens qui avaient été, qui avaient été aspergés avec des produits chimiques. Des femmes allaitantes qui avaient été aspergées avec des produits chimiques. Donc, c'est aussi une question qui m'intéresse. Parce que, il y a quelques années, je ramassais des orties au Maroc. Et il y a des gens qui poussent derrière les grillages qui m'ont demandé ce que je faisais. J'aurais dit, ben, je ramasse des armes. On dit non, c'est pas des armes, c'est des mauvaises herbes. Bon, alors, au bout d'un moment, leur chef est sorti. Alors, il avait des barrettes sur le côté, il avait des étoiles. C'était un homme qui était très bien équipé. Il portait des étoiles sur lui. Il y en a qui les portent dans le ciel, mais lui, il les portait sur lui. Donc, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, j'ai dit, je ramasse des armes. Mais c'est pas des armes, c'est des plantes sauvages, des mauvaises herbes. Ben, je dis, oui, mais c'est les plantes que votre grand-mère mangeait. Il m'a dit oui. Ben, je dis, votre grand-mère était armée, puisqu'elle n'avait pas besoin d'aller acheter de la nourriture. Donc, je lui ai dit, votre pistolet, je ne considère pas que c'est de la merde, parce que je ne pourrais pas faire pousser des fleurs avec, mais je n'ai aucune considération pour votre pistolet, puisque votre pistolet casse la balance commerciale du Maroc, puisque vous êtes obligé de vendre de plus en plus de marijuana pour avoir quelques balles. Donc vous êtes désarmé. Plus vous achetez de matières étrangères, plus vous êtes désarmé. Plus vous avez conscience de ce qui vous est donné autour de vous, plus vous êtes armé.
Manger des plantes sauvages, pour toi, ça signifie aussi avoir une autonomie. Tu te sens peut-être plus fort par rapport à tous ceux qui ont un certain pouvoir économique ou un certain pouvoir pour nous contraindre dans nos modes de vie. Ça rend libre, finalement, de manger des plantes sauvages.
Notre liberté, si tu veux, j'aurais cité deux choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir il y a très longtemps. Deux femmes qui m'ont donné Des réflexions qui sont plus intéressantes que les valises, parce que les valises, c'est lourd. Mais les mots, des fois, sont les moteurs de la conscience. Et elles m'ont dit, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Et il y en a une qui m'a dit, l'intelligence, c'est de sortir de sa limite pour trouver sa mesure. Et l'autre, elle m'a dit, l'intelligence, c'est pas de trouver qu'une chose, elle est bien ou qu'elle est mal, c'est de la considérer. Et je pense que pour moi, c'est une arme, cette expérience, parce que cette expérience fait que si demain matin, j'ai à marcher 15 km ou 20 km avec rien, eh bien, je suis armé dans ma tête. Je sais que je peux vivre. Je sais que je peux arrêter de manger, même pendant plusieurs jours, sans aucun problème. Et je peux même arrêter de boire, sans aucun problème, plusieurs jours. Ce que ne peut pas la majorité des gens, parce que quand nous avalons des choses toxiques, eh bien, en fin de compte, ces choses toxiques, dès qu'on arrête de manger et que nous commençons à manger nos graisses, on commence à se rendre malade. Donc, la grosse question aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que demain matin, ça va craquer. Il est probable que ça craque. Il est probable, moi j'ai vu notamment quand j'étais au Québec, j'ai vu le verglas, il n'y avait plus rien, c'était foutu. Il y avait les magasins s'effondraient, les toits s'effondraient, c'était une catastrophe.
En quelle année ?
C'était il y a maintenant bientôt 15 ans, je crois. C'était assez terrible.
Une grosse vague de froid.
Une vague de froid, c'est-à-dire qu'il s'était passé quelque chose au Québec d'assez particulier. C'est qu'il y avait un nuage en altitude qui était à température, qui devait faire peut-être 3-4 degrés, et il y avait du froid, parce que la chaleur monte, le froid descend. Donc ce nuage a claqué. Comme il ne faisait pas très 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 froid sur Montréal, mais enfin il faisait quand même moins 5, moins 6, et bien ça s'est transformé en verglas. Et 74 pilonneaux de tension se sont couchés parce qu'ils avaient la grippe. 74 pilonneaux de tension. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Et je dois dire qu'il y a un site qui est extrêmement intéressant à aller voir, qui est très curieux. Il faut aller voir, sur l'homme et l'argile, tout attaché. Et aller voir un site d'une femme qui s'appelle Jeanne Allègre, qui a fait un livre qui est bien intéressant, qui dit « Comment survivre en ville quand il n'y a plus rien ?» Parce que la première chose qu'il y a quand ça commence à mal aller, c'est qu'il n'y a plus d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Et bien, en fin de compte, on peut très bien, avec déjà aussi ce qu'on a sur nous, hein, je veux dire que si maintenant on n'a pas d'eau, bon, on peut très bien se débrouiller avec un tas de choses qui sont à notre proximité. Mais ce qui me paraît bien important, c'est de faire le tour d'un espace et de voir qu'est-ce qu'on peut brouter. Parce que je suis un broutard, qu'est-ce que je peux brouter autour de mon immeuble ?
Parce que, c'est-à-dire en termes de plantes sauvages.
En termes de plantes sauvages, voilà. Et qu'est-ce que je peux y faire pousser ? Qu'est-ce qui pousserait bien le long d'un mur ? Hein, qu'est-ce que je peux semer ? Parce que, en fin de compte, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est en fin de compte de me réapproprier ce qui m'appartient, c'est-à-dire l'espace public. L'espace public m'appartient. Pour quelle raison, aujourd'hui, je n'aurai que de la pelouse qui ressemble à la tête de mes gendarmes, où ils ne poussent pas grand-chose, et certainement pas des idées. Donc, comment me réapproprier cet espace et le sortir de sa stérilité ? Parce que cet espace public aujourd'hui est stérile. Il est stérile parce que, par exemple, une rose qu'on met sur un espace public, eh bien, les gens la regardent, comme ils regardent une belle femme. Mais regarder une belle femme, c'est beau de regarder une belle femme, mais c'est dangereux si on est passif. Moi, je trouve qu'en fin de compte, le cinéma, pour moi, me pose une grosse, grosse question. Parce que les gens sont spectateurs. Ils sont spectateurs de leur immeuble. Ils vivent dans un immeuble, ils sont spectateurs. Ils sont spectateurs de leur appartement. Et en fin de compte, eh bien, ça leur empêche d'être généreux. Je pense qu'il faut aujourd'hui retrouver la générosité dans ce que nous vivons.
Alors comment être acteur peut nous rendre généreux, d'après toi ?
Eh bien, par exemple, il est certain que si nous voyons notre appartement comme un laboratoire d'économie sociale. Ici, ben, je fais de temps en temps des bananes séchées, je fais des pommes séchées, parce que j'ai un chauffage. Bon, c'est important que je chauffe les araignées que j'ai au plafond. Ça m'évite d'avoir des mouches. Bon. Mais mes araignées peuvent côtoyer des bananes, très tranquillement, côtoyer des pommes, côtoyer un tas de choses qui permettent de vivre. Hein. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser mon propre corps et d'optimiser l'espace. Il est certain qu'aujourd'hui, nous avons une admiration de nos plafonds. Nous avons une admiration de nos murs qui doivent rester parfaitement blancs, parfaitement immaculés. Non, 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 pour moi, mes plafonds me servent. Ils me servent à mettre des séchoirs, je fais sécher des plantes, je mets des ginkgo biloba à sécher, je mets différentes plantes et j'essaie de les optimiser. Voilà. Ça me paraît extrêmement important. Se réapproprier l'espace. Je vois par exemple les murs que j'ai autour. J'ai des murs d'ACLM. Bon, ben, j'ai fait des trous autour. Au début, ça respectait un peu. Donc, je me suis souvenu de ce que disait De Gaulle. La caravane passe, les chiens aboient. Donc, j'ai laissé aboyer. Ça aboyait abondamment. Bon, on m'a remis un peu dans les brancards. Mais j'ai continué. Et maintenant, ben, j'ai mélangé des fleurs avec des tomates, avec des poivrons, j'ai mis des lys, j'ai mis différentes plantes, j'ai mis de la vigne, hop. Et bien maintenant, plus personne ne dit rien.
Donc je me suis retrouvé tout seul en Espagne. Bonjour.
Ah, t'es parti tout seul. Ah oui, ça c'est...
Bon, mais si vous voulez, on va commencer. Hein ?
Oui.
On va commencer. Alors d'abord, je vais dire d'abord qu'on est invité par le CEL, hein, qu'en fin de compte, il y a plusieurs associations, il y a Biosim, et aussi, eh bien, je vais parler aussi un tout petit peu d'une association qui est très liée à ce qu'on va faire, qui s'appelle vivrecru.org. Donc, on va présenter un appareil qui permet, en fin de compte, eh bien, de ne pas cuire, de vivre les choses les plus crues possibles. Donc, cette machine s'appelle Huron. Elle a un très très bon moteur, et c'est une machine qui permet, sans pousser, de mettre directement les légumes dedans, de mettre des fruits, de mettre un tas d'ingrédients, de mettre aussi des herbes, parce que là, par exemple, je mets du chisseau dedans, je mets du chou frisé, des raisins, et je vais mélanger tout ça. Ça, un gros avantage. Et par exemple, les fruits, par exemple, ont un petit inconvénient. C'est que quand on mange beaucoup de fruits, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Et notamment, il y a des gens, ça leur donne des crampes. Donc, quand on mélange du vert avec, eh bien, en fin de compte, ça va équilibrer. Et ça va éviter, ça va permettre une meilleure digestion. Je vais mettre des fruits avec de la verdure. Donc, je vais présenter cette machine. Cette machine, en fin de compte, est une machine qui est assez bien ficelée. Ça s'appelle Uro. Là, j'ai un corps qui est avec un petit clapet. Quand on la met... Attends, où j'ai l'autre... Voilà. Alors là, j'ai deux types de filtres. J'ai un filtre qui fait des choses assez grosses. Si, par exemple, je veux faire quelque chose avec de la banane, je peux mélanger avec des oranges, mélanger avec de la verdure, et je vais faire quelque chose qui va être très, très, très onctueux. Alors ça, c'est vraiment très, très bon. Mais si je veux faire quelque chose de plus fin, eh ben, j'ai un filtre qui est beaucoup plus fin. Et ce filtre a un gros avantage, c'est qu'il a quelque chose que j'emboîte là, ici. Ça va balayer. Hein. C'est-à-dire que j'ai des balais, là, et ça va permettre qu'en fin de compte, le filtre ne se bouge pas. Alors là, il faut que j'arrive à le mettre. Voilà. Hop, là, il est bon. J'ai amené quelque chose qui donne quelques petites idées de ce qu'on doit faire. J'ai amené des livres sur les jus. Et celui-là, notamment, va parler des jus par rapport à la santé. Des jus thérapeutiques. Parce qu'il y a des arnaques aussi, par exemple, je suis triste. Eh bien, en fin de compte, si je mange du céleri, eh bien, le céleri est une plante qui va me booster. Quand je fais des jus, c'est pas ce que j'absorbe qui est important, c'est ce que j'assimile. Il est important de bien comprendre qu'en fin de compte, quand je mange des choses et que ce sont des jus, eh bien, en fin de compte, ça passe directement et très rapidement dans le sang. Parce qu'en fin de compte, on mange beaucoup de choses, mais en fin de compte, il ne reste pas plus que quand on met une lettre à la poste. Quand on met une lettre à la poste, en principe, la boîte ne lit pas le courrier et ça ne lui fait pas beaucoup d'effet. Quoi qu'on écrive. Eh bien, en fin de compte, c'est la même chose. Nous avalons beaucoup de choses qui passent dans notre corps. Donc, cette machine, l'avantage, c'est de pouvoir mélanger et de permettre une assimilation optimale. Optimale, optimale. Alors, je vais présenter cet appareil, je vais le brancher. Hein. On va peut-être prendre de l'eau pour rincer un
tiens,
peu.
Tiens, tiens.
Oui.
Tiens.
J'amène ça déjà.
Ah ben ça. Et ça, et j'amène une assiette. Pour que quand on rince, que ça ne va pas partir partout. Ah, je vais chercher une assiette.
Vous faites souvent des choses comme ça au sel ?
Eh ben, on est habitué. Moi, je suis vraiment la cuisinière du sel. Je suis la secrétaire, mais je cuisine en même temps.
Vous êtes combien au sel ?
On est 97 personnes.
Ça marche bien, les échanges, alors ?
Oui, 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 ça marche énormément. Et comme, bien sûr, une heure de coup de main, il n'y a pas de travail, hein. C'est une heure de coup de main est égale à 60 pics. Les pics, ce n'est pas le pic de midi, mais c'est notre échange de monnaie. Et quand on fait des bourses échanges, chacun il amène des trucs qu'il a à la maison et qui ne sert à rien. C'est des doubles, c'est des télévisions, des vêtements, jouets. Et donc, on échange entre nous. Vous avez un enfant de 2 ans, moi j'ai un enfant de 5 ans, et on échange les vêtements et tout ça. Il n'y a pas d'argent du tout entre nous. Ce n'est pas un travail en fin de compte, c'est un échange, on échange entre nous. Un échange de biens et de services.
Il faut juste adhérer à l'association.
Exactement, adhérer à l'association pour 12 euros pour l'année. On a une liste des adhérents, et la liste des adhérents, il y a des offres et des demandes. Moi je suis coiffeuse de métier, je fais des coupes, des couleurs, des mises en plis, des brochines et tout ça. Après, je fais un peu de peinture sur soie, je fais de l'encadrement, tout ça j'échange. Et puis il y a les autres personnes, les gens qui donnent des cours, tous les métiers on les a nous hein, là. Alors donc on a des masseurs, on a des kinés, on a un banquier, on a un prof d'anglais, on a un prof d'espagnol.
Vous avez reçu quoi déjà comme échange de services ?
J'ai demandé des cours de guitare, après j'ai demandé aussi des jeux de société. Et j'ai demandé avec ça de la marche, l'accompagnement de la marche, parce que je ne peux pas y aller au Bois de Pau toute seule. Alors donc, on se promène, quoi. Et puis, c'est très bien. On part à 2, à 3, à 4.
Après, vous avez les habits, vous avez des choses de la maison comme ça que vous échangez?
Ah oui, 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 tout. Les habits, les draps, les vêtements. J'avais mon fils qui est grand maintenant. J'avais tous ses jouets, tous ses vêtements. J'ai échangé, j'ai pris d'autres choses à la place, voilà. On veut y bannir l'euro de notre porte-monnaie. C'est pas facile, hein. Mais on essaye quand même. On essaye de se donner des coups de main. Et puis, ce qui nous reste, bien sûr, notre loyer, on ne peut pas le passer en ça ou aller mettre l'essence dans la voiture non plus. Mais sinon, tout le reste, on peut. Hein. Petit coup de main, ce n'est pas des travaux. On ne prend pas le métier d'un commerçant, ça non, parce qu'on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire et on ne peut pas le faire non plus. On n'a pas des outils faits pour construire une maison, on ne la construit pas. Mais donner un coup de peinture, poser une moquette, par exemple, faire déboucher un livier, il y a plein de petits trucs, quoi.
Vous faites des amis aussi au CEL?
Ah oui, 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 oui. On ne vit pas seul, on a des amis, dont on fait des repas conviviaux ensemble.
Ça crée du lien?
Ah oui, tout à fait. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais bien isolée seule avec mon fils quand j'ai divorcé. Et ça fait 12 ans que je suis au CEL et je suis contente. Je ne bougerai pas, je ne changerai pas ça pour... Je suis obligée de faire des amis, des rencontres, tout ça. C'est super, quoi. C'est sympa, quoi.
Et alors là, on a une démonstration de comment faire du jus. C'est vous qui avez invité Jean?
Oui. Oui, et Jean, c'est un celliste aussi. Hein. Et il m'a proposé de venir pour présenter sa machine. Et moi, il m'a fait goûter. J'étais chez lui, il m'a fait goûter. J'ai trouvé ça sympa. Les carottes et tout ça, je trouvais ça sympa. Ils sont en train de faire.
On y va,
oui, pour goûter nous aussi. Parce que sinon, ils vont en boire tout et nous laisser. Mmh. 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 Mmh.
Puis, il n'y a pas que le prix, il y a ce que ça nous coûte à terme.
Oui,
la santé, je dis aussi. Ah, ben, eh bien, il faut qu'on prenne le risque de bien se porter et de prendre les moyens de bien se porter, d'acheter des instruments qui peuvent nous aider à bien se porter. Maintenant, c'est vrai que, aussi, manger des raisins comme ça, c'est impeccable. Hein. Mais les jus, vous allez voir, on va faire une petite démonstration.
Céleri, tu veux ?
Voilà, on va déplacer. Céleri, j'ai aussi des feuilles de navet. Hein ? J'ai des feuilles de navet.
Comme ça ?
Voilà, oui.
Comme ça ou un peu plus ?
Non, comme ça, ça va bien. Alors, il y a deux récipients. Il y a un récipient qui récupère le jus et un récipient qui récupère le solide. J'ai un poivron, on va le mettre dedans. Hein ? Et on peut s'amuser. On a le droit de s'amuser. Là, j'ai un très beau chou. Ça, c'est de la chlorophylle.
Les navets, je te les laisse.
Les navets, je les mets.
Bon, ça, je vais laver. Tiens.
Tiens, tu peux laver. Ah, donc, la feuille de chou. Tiens, je te donne la main un peu celui-là. Tiens, moi, je vais commencer aussi à préparer.
Voilà.
Après, le brochet. Voilà. Je vais mettre du raisin. On va commencer. La manip. Et alors tu vas voir un peu ce qui va sortir.
Ce sont les effluves déjà.
Voilà.
Alors tu vois là, ça commence à sortir.
Donc, voilà. La texture et tout là, c'est sympa.
Là, ça commence à sortir. Et voilà, merci, merci.
Alors, est-ce qu'on peut le goûter, ce jus?
Oui, on va le goûter. On va arrêter la machine, on va goûter le jus.
Oh, ça, c'est un truc.
Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà.
Oh, hein, ça sent
alors, elle a un petit-fils, elle l'a pas amené, c'est terrible. Eh bien, voilà, on va goûter ça.
Ouais.
C'est pas trop épais, ni trop liquide. C'est, il a bien... Bien quantifié.
Quel régal.
Alors ?
Oh, délicieux, délicieux. Oh, on dirait jamais qu'il y avait du... tout ce mélange qu'on a fait là.
On dirait pas qu'il y a du chou, hein. On va voir ce que ça donne dans une demi-heure.
Ouh là là.
Tiens, pour toi, Jean. Voilà, régal.
Mais il supporte bien, hein. Il le fait tout le temps. Hein. Je sais qu'on ne va pas avoir mal au ventre, ça c'est sûr, il n'a pas mal au ventre, lui. Il ne mange que du cru.
C'est ça pour moi qui est beau, qui est important. C'est de permettre à nos petits et à nous-mêmes de bien se porter.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.